et vous pouvez déjà en préparer, vous en doutez, la Bible devant vous dans 1 Samuel. On va reprendre le récit à partir du chapitre 16. On poursuit la série et aujourd'hui on va voir le roi que Dieu a vu, le roi qui était selon son cœur. Tout avait bien commencé. La dernière fois, on avait vu Saül, beau, grand et fort, même humble dans un premier temps, au début. Mais en fait, on avait découvert qu'il avait en lui un esprit rebelle à Dieu. Et foncièrement, il ne veut pas obéir à Dieu. Bien sûr, il sait un peu se tenir dans notre société. Il ne désobéit pas de façon tout à fait effrontée, de façon polie. Il met un peu de forme. Cependant, vous savez comme moi que peu importe la forme, que ce soit poli ou de façon déchaînée, la désobéissance, c'est la désobéissance. Ça revient à ne pas écouter le Seigneur. Et Samuel rappelle au peuple et à Saül, écoutez vaut mieux que des sacrifices. Ça vaut mieux que notre étiquette religieuse, même évangélique. C'est mieux que notre apparence pieuse. La rébellion, ça équivaut au péché de divination. C'est comme vouloir chercher une autre voie autre que celle du Dieu créateur et souverain. Et en fait, souvent, on le sait, pour nous, vous avez fait l'expérience comme moi, n'est-ce pas, ça revient à écouter sa propre voix, ses propres pensées, ou celle des nécromanciennes, comme le fera Saül, en fait, à la veille de sa mort, et on voit toute une dégringolade, là. Saül, il écoute de plus en plus pire, si vous voulez. Samuel aussi rappelle, ça c'est au chapitre 15, la résistance équivaut le péché d'idolâtrie, puisqu'on estime que quelqu'un est plus grand que Dieu et devrait être suivi plutôt que Dieu. Et là, de nouveau, ces idoles-là sont en général des projections de nous-mêmes. Alors, jusqu'ici, l'histoire de l'installation de la royauté en Israël, elle est un peu mi-figue, mi-raisin, pas très encourageante. Mais comme on l'a déjà vu à maintes reprises dans cette série, et dans le survol de l'histoire biblique, Dieu ne baisse pas facilement les bras. Ouf, bonne nouvelle pour nous ce matin. Il n'abandonne pas son projet de faire du bien, et une fois de plus, la grâce surgit au milieu de la détresse. Le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté, il ne sera plus roi sur Israël. » Et c'est pas la fin de l'histoire. « Remplis ta tente d'huile et va, je t'envoie chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. » Avant de poursuivre et de découvrir qui est ce fameux fils de Jessé que Dieu a devant les yeux, rappelons-nous que si la grâce abonde, ce n'est pas une excuse pour laisser le péché se développer dans notre vie. Nous demandons ainsi au Seigneur des oreilles pour entendre et un cœur pour obéir à la parole qu'il a prononcée. Je ne vais pas le dire très courtement. Seigneur, nous voulons que tu nous gardes et que tu viennes nous délivrer de nous-mêmes, de notre désir de nous écouter. Là, c'est d'autres choses que toi, comme mettre sur notre vie, sur le trône, au-dessus de nos vies. Il faudrait que ce soit toi vraiment qui règne ce matin. Merci pour ta parole, merci pour le fils de Jessé que tu as devant les yeux, qui est le bon roi que tu as choisi. Donc, annonce Jésus-Christ que nous voulons servir et suivre ici maintenant le fils du fils de Jessé. Seigneur, merci parce que tu n'abandonnes jamais avec nous. Merci pour ta grâce pour nous. On va voir trois choses. Le roi qui manifeste la permanence de l'amour de Dieu, le roi que Dieu a vu, le roi qui délivre et qui défend l'honneur de Dieu et qui délivre le peuple de Dieu. Et puis, la troisième partie, ce sera le roi qui souffre avant finalement de triompher. On va parcourir, rassurez-vous, trois chapitres, mais priez aussi pendant que je parle, pour que je ne m'avance pas. Ok, on en est là. Samuel reçoit l'instruction de Dieu, d'accord, on continue le récit. Remplis ta tente d'huile et va, je t'envoie chez Jessé, le Bethléemite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. Alors Samuel se gratte un peu la tête, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. On a compris que maintenant entre Samuel et Saül, c'est un peu compliqué. Le Seigneur dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé au sacrifice. Je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. Ok, bonne nouvelle encore ce matin, les amis. Une fois encore, une fois de plus, Dieu n'est jamais dépassé. Il n'est jamais dans le plan B, jamais dans la réaction. Bien avant que Jessé et ses fils n'existent, il était déjà occupé avec Ruth et Boaz à préparer le grand-père de David. Et selon Éphésiens 1, le Seigneur nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, selon un plan qu'il a décidé lui-même avant même la fondation du monde. Avant même que vous et moi, on ait posé quelques actes que ce soit, ni bien ni mauvais, quelques paroles que ce soit, ni bonnes ou mauvaises. Dieu a déjà tout dans ses mains et il garde le cap, il garde la route. Alors c'est bon de faire confiance à un tel Dieu. Et on voit Samuel qui est un bon exemple. Ok. Verset 4. Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il se rendit à Bethléem, les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et lui dirent bienvenue. Eux aussi, ils ne savent pas trop qu'est-ce qui va se passer avec Saül, est-ce que ça va leur causer des problèmes d'accueillir Samuel, alors qu'il y a un problème avec le roi qui est en train de régner actuellement. Et Samuel les rassure, il répondit bonjour, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Donc Samuel lui dit, il y a Dieu qui a vu son roi parmi les fils de Jessé. Mais c'est qui? Okay, mais Dieu a dit, il va lui indiquer. Voyez avec moi verset 6. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit, en voyant Eliab, à coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. Et le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Jessé appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer Shammah. Et Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Jessé, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Et ça, c'est une instruction, n'est-ce pas, pour nous, de nous méfier, d'être un petit peu vigilants sur nos intuitions, sur nos impressions. On connaît cette expression populaire, la Bible ne fait pas le moine, mais c'est un peu la même chose pour Dieu. Les apparences, c'est pas ça qui fait le tout, parce que Dieu regarde au cœur. C'est selon le cœur que Dieu pèse les personnes. Les ressources, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, elles viennent de l'intérieur. C'est Jésus qui nous a enseigné ça. C'est de l'intérieur, c'est du cœur que sort tout ce qui sort dans notre vie. Les bonnes choses ou les mauvaises choses. Dieu regarde le cœur. Et même le prophète de Dieu, Samuel, peut se tromper. Vous voyez, quand Eliab arrive, il se dit, ah, ça c'est le gars qu'il nous faut. Voilà, il est grand, il est fort aussi. On a vraiment besoin, alors, de l'aide de Dieu pour avoir du discernement. C'est pas quelque chose qui va être simple. Et on réalise qu'il y a beaucoup d'événements dans 1 Samuel qui dépendent des choix que les uns et les autres font. N'est-ce pas? Le choix d'Élie, les choix de Samuel, les choix de Saül, les choix du peuple, avec des conséquences plus ou moins heureuses et bonnes. Et c'est la même chose pour nous dans notre vie. On est sans cesse, chaque jour, confronté à des décisions à prendre. Et on est dans des circonstances, et les circonstances nous apparaissent plutôt favorables, défavorables. On a du mal, des fois, à savoir. On doit faire confiance à des personnes, parce qu'on est en relation avec des gens autour de nous. Et faire ces choix-là peuvent avoir aussi des conséquences plus ou moins heureuses ou malheureuses. Et en nous-mêmes, on n'a pas les capacités à bien choisir. Si le peuple précédemment a aussi été attiré en voyant les autres nations, en désirant avoir la même chose que ce qu'il voyait chez elles, et si la leçon se répète ici, est-ce que ce n'est pas interpellant pour nous? Souvent, je me rends compte que je me suis trompé plus souvent en voyant des personnes. Et quand je me suis trompé, je me suis rendu compte que le plus surprenant, ce qui était le plus perturbant, ce n'était pas le sens de voir une personne apparemment mauvaise qui s'est révélée quelqu'un de bien. C'était plus souvent déstabilisant dans l'autre sens, dans le sens d'une personne apparemment super qui se révèlent pas être ce qu'elles semblent être. Peu importe. En fait, la seule sécurité pour nous, c'est de suivre Yahweh, notre Dieu. Ses jugements sont justes et bien fondés. Lui ne s'arrête pas aux apparences. Il voit très clairement ce qui est dans le cœur de l'homme, dans mon cœur, tous, dans notre cœur à nous tous. Mais c'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui veut nous conduire, qui veut nous donner la sagesse. Vous connaissez ce psaume 139, le premier verset 1 à 4. Seigneur, tu m'as examiné à fond. Tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Faux Dieu, pas de faux semblants, pas d'apparence qui tienne, il connaît à fond ce qui est dans notre cœur. Il connaît nos intentions avant même qu'on ait pu les exprimer. Il nous connaît, nous. Il nous a aimés. Il connaît ceux qui sont autour de nous. Il peut nous guider. Il peut nous aider à avoir du discernement. Jésus aussi, notre roi, possède cette sagesse. Dans sa vie terrestre, on lit ça, c'est un petit commentaire de l'apôtre Jean, au chapitre 2, verset 23 à 25. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes que Jésus produisait, qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. La situation est plutôt une situation de détresse. Il doit regarder juste son propre cœur. On multiplie par le nombre qu'on est ici, on multiplie par le nombre d'habitants à carrément émergé. Mais, rappelons-nous, c'est dans la détresse que Dieu aime faire surgir la grâce. C'est dans les situations chaotiques que Dieu aime établir son royaume. Et c'est ce qu'il avait annoncé un peu plus tôt, en parlant à Saül. Maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Le Seigneur s'est cherché un homme selon son cœur, et le Seigneur l'a institué chef sur son peuple, parce qu'il n'a pas observé ce que le Seigneur avait fait en demain. Voilà pour Saül. Alors Samuel est à la recherche de ce roi selon le cœur de Dieu, le roi que Dieu a bien choisi, en toute connaissance de cause. Et pour le moment, Samuel n'a reçu le feu vert pour aucun des fils de Jessé présents. On imagine la tension, on imagine un peu de transpiration sur le front de Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'ai pas bien entendu Dieu? Et puisqu'il faut vraiment tenir à la parole de Dieu, c'est une question vitale. Il pourrait céder comme Saül. Vous vous rappelez, en voyant que Samuel semble tarder le septième jour, il pourrait dire, bon, je prends les choses en main, et finalement on va dire, c'est Élia. Mais Samuel, au lieu de faire entrer la parole de Dieu dans son plan, il préfère se soumettre et soumettre ses pensées, ses émotions à la parole de Dieu. Il attend, il pose des questions, il cherche. Et on est au verset 11. Alors Samuel dit à Jessé, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et Jessé répondit, il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. Jessé l'envoya chercher. Or, il était roux, il avait de beaux yeux et une belle apparence. Le Seigneur dit à Samuel, confère-lui l'onction. Ah, c'est validé. Confère-lui l'onction, c'est lui. Donc ça veut dire, vous avez remarqué, c'est bizarre parce qu'il avait une belle apparence, ce jeune David. Ok, est-ce que Dieu se comprend lui-même? Non. Il ne faut pas comprendre donc qu'une belle apparence est forcément la cause d'un doute et qu'au contraire, une apparence repoussante, c'est forcément que Dieu t'a choisi. Bon, pour la petite blague, il y a quelques années, c'est une histoire véridique, il y avait une dame qui commençait à avancer en âge, qui avait du mal à trouver un mari et elle estimait que les hommes ne cherchaient que les femmes selon leur apparence. Potentiellement, une part de vérité, on doit l'admettre. Puis finalement, elle s'est tournée vers un des messieurs qui était là, elle dit, oh, voilà, toi, tu es quelqu'un de bien. Ah, et donc, trois petits points sous-entendus. Alors, qu'est-ce qu'on devait penser de son épouse? Est-ce qu'il l'avait choisie parce qu'elle n'était pas si jolie que ça? Et on l'a bien vu. On doit faire attention, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans des caricatures. d'examiner plus loin que les apparences. En fait, ni l'apparence belle, ni l'apparence repoussante ne compte. C'est pas ça. Mais c'est d'être soumis au Seigneur. C'est un cœur qui aime le Seigneur. Alors voilà David, le petit, qui fait paître le troupeau. Et on a encore une illustration, en tout cas, de la manière surprenante avec laquelle Dieu agit. Encore une fois. C'est pas celui qu'on attendait. De même pour Jésus, le roi des rois. À son époque, on disait de lui, c'est pas le fils de Joseph, là? Sa mère et ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Qu'est-ce qu'il a donc d'exceptionnel? Ou encore d'autres disaient, il mange et boit. Ça peut pas être un prophète, ça peut pas être quelqu'un du Seigneur. Alors que nous, on jeûne et on se contraint dans notre religion. Ça peut pas être lui. Il est de Galilée. Quand est-ce que tu as entendu parler qu'il y avait un prophète qui venait du Galilée? Mais peut-être l'argument le plus souvent employé, c'était lui, le Messie, le roi choisi par Dieu. Pourquoi il est sur la croix? Il ne peut pas souffrir. Il en a sauvé d'autres. Pourquoi il ne se sauve pas lui-même? On devrait suivre un roi qui se laisse clouer sur la croix. Mais en réalité, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça. Dieu s'était choisi une pierre précieuse. Et bien que lui ait choisi cette pierre, qu'il ait vu convenable d'utiliser Jésus, un homme, un roi souffrant, cloué sur une croix, pour libérer son peuple, ceux qui étaient autour n'en ont fait aucun cas. Ils ont rejeté cette pierre choisie et précieuse. Et pourtant, c'était la pierre principale, celle de l'homme. Je vais lire ça dans 1 Pierre au chapitre 2. Alors pour nous, aussi ce matin, pour cette première partie, il nous reste à réaliser que nous sommes souvent sans sagesse, que nous avons besoin de venir au Seigneur, de nous laisser conduire par le Seigneur, et aussi de nous prosterner juste devant la sagesse, le roi qu'il a choisi, le roi qui ne correspond pas à ce que nous on attendait, mais qui est le vrai roi, le bon roi, celui qui vraiment est capable de nous délivrer. Alors on lit verset 13, du chapitre 16. Samuel prit la corne d'huile et conféra l'onction sur David parmi ses frères. Et à partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. Quant à Samuel, il s'en alla à Ramah. À partir du moment où David reçoit l'Esprit de Dieu, il est rendu capable pour sa mission de roi, celle que Dieu lui confie. Et deux choses arrivent. La première, il va vaincre et établir le royaume. Mais aussi, en parallèle de ça, il va être haï, pourchassé. Il va se retrouver dans des ennuis incroyables, des situations périlleuses. Il va être persécuté. C'est les deux choses que je vous invite à regarder, le temps qui nous reste. Mais voyons d'abord le chapitre 17 maintenant. Comment le roi choisi par Dieu va défendre l'honneur du roi des rois, du Seigneur, du Yahweh, le Dieu de l'Alliance, et délivrer son peuple. L'histoire se poursuit justement, et de nouveau, on dirait que les apparences vont beaucoup compter. Non, pas du tout. Alors voilà Goliath qui arrive sur la scène. Et l'auteur prend le temps de nous le décrire en détail. Je lis ici dans la seconde 21, pour une transcription avec les systèmes actuels, pardon, le cadre. Et non pas les systèmes de mesure antiques, qui sont un peu loin de notre réalité. Alors, chapitre 17, verset 4. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Il venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le poids de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Juste le poids de la lance est quasiment un paquet de lait, quoi, un pack de lait. Okay. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria : Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Wow. Assez impressionnant. ne sais pas si vous avez déjà assisté à des matchs de basket, vu à la télé, si vous avez pu aller dans le stade même, dans la salle, et que vous avez vu les gars sur le terrain, c'est assez impressionnant. Et pourtant, et plutôt dans les 2 mètres et quelques, mais ici, Goliath, il fait pas loin de 3 mètres. Et si on ne doit pas s'arrêter sur l'apparence pour des choix positifs comme le choix d'un roi, enseignez-moi ici, si on ne doit pas non plus s'arrêter sur l'apparence de celui qui défie Yahweh, le véritable roi suprême du peuple d'Israël. Là aussi, il faut regarder l'ennemi avec la bonne perspective. Pour les géants aussi, Dieu regarde au cœur et non à ce qui frappe les géants. Et c'est dans le cœur de Goliath, justement, du mépris et de l'arrogance, verset 41, vous pouvez voir ça, du mépris pour Yahweh, pour le Dieu vivant, pour le Dieu qui est le Créateur, pour le Dieu qui est en train de lui faire battre le cœur, pour le Dieu qui est en train de lui donner de la force pour porter cette cuirasse de 60 kilos et ce jabot et toutes choses. Goliath n'en a que faire. Il méprise ce Dieu. Il méprise le peuple avec lequel ce Dieu-là, Créateur Tout-Puissant, a fait alliance. Et il profère des injures, des insultes. Voilà des paroles qui sortent d'un cœur mauvais. Il profère des malédictions contre le roi choisi par Yahweh. Il n'est pas le seul à se tromper encore sur les apparences. Eliab aussi se trompe sur le compte de David. Et quand David arrive pour voir un peu ses frères et pour lui dire, parce qu'il vient prendre des nouvelles, il est envoyé par le papa. Et puis il est froissé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'est pas en train d'avoir des victoires ici? Nous sommes le peuple de Dieu, et voilà ce Goliath qui injurie notre Dieu. Et Eliab, le frère, se trompe sur le compte de David. Il dit, oh, toi le petit, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais retourner avec ton troupeau. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'orgueil dans ton cœur? Saül aussi, il se trompe. On ne voit pas que ce n'est pas une question d'armure qui va faire la différence. Ce n'est pas une question de l'équipement qu'on a, les ressources qu'on a, qui va faire la différence. C'est la foi en Dieu qui compte. Peu importe le géant qui en passe, peu importe les apparences d'une situation totalement catastrophique. Vous voyez, si Goliath réussit à vaincre un adversaire, il gagne toute la partie. C'est comme au poker. Tu mets tous tes pions. C'est qui tout double. Soit tu gagnes tout, soit tu perds tout. David n'est pas effrayé. Qu'est-ce qui t'effraie, toi? Qu'est-ce qui t'apparaît monstrueusement s'opposer à ta paix, à ta liberté en Christ, aujourd'hui, ce matin, peut-être même. Voilà un encouragement pour nous aussi, pour moi, avoir la bonne perspective. Les problèmes dans notre vie sont réels. Les opposants et les oppositions auxquelles on doit faire face, en tant que chrétien, en chrétienne, en tant que parent ayant un cœur pour l'éducation de nos enfants, en tant que disciple dans un monde qui ne craint pas d'offenser Dieu, c'est des oppositions qui sont réelles. Ces problèmes sont vrais, sont grands, mais nous avons un Dieu encore plus grand. Et justement, il s'est choisi un roi, un homme, pour répondre aux défis de Goliath, pour délivrer, pour nous délivrer de nos ennemis, de l'écouter. Pour revenir au récit, alors c'est David, rempli de l'Esprit Saint, qui va apprendre cette leçon pour le reste du peuple de Dieu. Dieu l'a préparé pour ce jour-là, alors qu'il était qu'un berger. Il a appris à défendre le troupeau de son père. Il a appris l'esprit de service pour ses frères, le sens des responsabilités. Il a appris à avoir du respect pour le roi. Il a appris à avoir confiance en Dieu. Voilà, que Dieu l'amène à ce point-ci pour l'utiliser, pour délivrer son peuple. C'est Yahweh qui va délivrer. Et non les capacités propres de David. Et en fait, tout préparé qu'il est, il reste bien conscient. La victoire, elle dépend de Dieu. Lui aussi, il a compris que Dieu regarde au cœur et non à ce qui frappe les yeux. Voyez comment il répond à Saül et encourage tout le peuple. On est au verset 32, chapitre 17. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de lui. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec ce Philistin. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller vers ce Philistin pour te battre avec lui, car tu n'es qu'un jeune garçon. » Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Caïn dit à Saül, je faisais paître le troupeau de mon père. Quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je lui courais après. Je le frappais et je délivrais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la barbe, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que j'ai abattu le lion et l'ours. Le Philistin, cet incirconcis, sera comme l'un d'eux, car il a défié les troupes du Dieu vivant. David dit encore, « Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de la griffe de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va et que le Seigneur soit avec toi. » Ce récit, c'est aussi l'occasion de nous rappeler que l'Évangile est proclamé ici déjà dans 1 Samuel. L'Évangile, c'est qu'un seul meurt pour que tous vivent. L'Évangile, c'est que Dieu n'a pas compté sur nous pour aller chacun combattre notre petit Goliath et combattre notre petite armée avec nos propres ressources, avec nos propres forces. Et puis, il y en aurait qui s'en seraient sortis, qui auraient passé la barre, qui auraient pu rentrer au paradis, et d'autres qui auraient lamentablement échoué parce que l'ennemi aurait été trop fort et ils se seraient perdus juste aux portes du paradis. Non, ça, c'est pas l'Évangile. Ça, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible nous dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ, lui, le juste, pour mourir pour des injustes. Il est le roi qui a été suscité par Dieu pour obtenir la victoire à notre place, pour tout le peuple. Et ça, c'était conformément à l'alliance que Dieu avait décidé de faire. Il ne s'agit pas de ce que nous faisons pour Dieu, il s'agit de ce que Dieu a fait pour nous grâce à Jésus-Christ, à sa mort sur la croix et à sa résurrection qui a défait l'ennemi une fois pour toutes. Voyez encore au verset 45, David, comment il parle, ça a des échos avec ce que Christ a fait pour nous. David dit aux Philistins, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je viens à toi au nom du Seigneur, Yahweh, des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Voilà ce que Jésus a fait. Il est venu au nom du Père. Il a été envoyé par le Père, le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël. Et en ce jour-là, verset 46, le Seigneur te livrera à moi, je te frapperai, je te couperai la tête. En ce jour-là, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et ainsi toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Ainsi toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve, car le combat appartient au Seigneur, et c'est lui qui vous a livré à nous. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Je ne sais pas avec quoi tu te bats ce matin, avec l'orgueil, avec les angoisses, avec la colère, toutes sortes de choses qui sont mauvaises, qui sont pas bonnes. Mais Dieu a envoyé son fils Jésus pour nous délivrer. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui est le maître du combat. L'issue appartient à ses maîtres. Et donc, notre part, c'est de mettre toute notre confiance dans le roi choisi par Dieu, en Jésus, et de nous confier à lui, de l'écouter, de le suivre. Parce que quand David remporte la victoire sur Goliath, on voit tout le peuple ensuite qui suit dans cette victoire-là. Il y a aussi une place pour nous, mais il ne faut pas inverser les rôles. C'est pas nous qui allons nous libérer, non pas tous ensemble. C'est un seul, le roi qui choisit. Voilà la première chose que l'Esprit fait quand il remplit le cœur de David, l'Esprit de David. Il est plein de foi, plein de zèle, et il fait des choses pour accomplir les plans de Dieu. C'est-à-dire délivrer le peuple. La même chose que Jésus a fait, n'est-ce pas? Au moment de son baptême, le baptême a lieu, puis il sort de l'eau, il est rempli d'esprit. Et tout le reste, l'Évangile, c'est juste la réalisation de ça. Jésus qui est venu pour sauver son peuple. Il y a un deuxième effet quand on reçoit l'Esprit de Dieu. Un deuxième effet qui a eu lieu aussi sur David, qui a aussi eu le même effet sur Jésus, et qui aura même genre d'effet sur nous si nous suivons le roi. C'est la dernière partie, le roi qui souffre avant finalement de triompher. Quand David a été rempli d'Esprit Saint, il a délivré le peuple, mais il a été aussi menacé, persécuté. C'est en particulier Saül qui va pas se donner de répit, ni donner de répit à David. Il va le poursuivre jusque dans les déserts, partout dans le pays, dans les grottes. Alors que Saül manifeste de plus en plus qui il est, il s'écarte de plus en plus loin du Seigneur. Sa haine pour le roi, selon le cœur de Dieu, ne fait que grandir. On lit ça dans 1 Samuel 16, 14. Le souffle du Seigneur s'éloigna de Saül, tandis qu'un souffle mauvais venant du Seigneur le remplissait au froid. Et si vous lisez jusqu'à le dernier chapitre de 1 Samuel 31, on voit juste la dégringolade de Saül. De plus en plus, il est rempli de haine, de plus en plus, il est rempli de jalousie, de plus en plus, il s'éloigne de Dieu, jusqu'à se retrouver vraiment déconnecté de Dieu. Et ça, c'est la veille de Saül. Pourtant, à ce stade-ci du récit, David est une source de bénédiction et de consolation pour Saül. N'est-ce pas un peu ironique et bizarre? Puis ça est quoi, 1 Samuel 16, 23. Lorsque le souffle de Dieu était sur Saül, le mauvais souffle, celui qui le perturbait, celui qui le rendait triste, David prenait la lyre et en jouait. Saül respirait alors et se trouvait mieux. Le souffle mauvais s'éloignait de lui. Vous connaissez peut-être cet épisode où Saül est perturbé, il est angoissé, et on cherche quelqu'un qui peut l'apaiser, on trouve David. On l'amène au palais du roi, et quand il chute la lyre, il chute la musique, les cantiques, les psaumes, voilà que ça apaise Saül. Il en a été de même pour Jésus. À peine rempli de l'Esprit Saint, le voilà poussé au désert. Face au malin qui cherche à le détourner de Dieu, face à l'opposition des pharisiens qui très tôt décident de le faire mourir. Et cette tension va aussi en croissant jusqu'à Gethsémane dans les évangiles. Mais c'est aussi instructif pour nous qui sommes les disciples de Christ. Sachons que notre appartenance au royaume nous conduira dans le même chemin. Les victoires, les occasions de nous réjouir, les occasions de voir l'ennemi reculer, mais aussi la haine de l'ennemi qui va se manifester contre nous. De même que Saül déteste David tout en étant béni par son service pour lui. De même, le monde va détester le peuple du Messie. Bien que ce peuple-là soit une bénédiction pour le monde. Vous connaissez ces paroles de Jésus, n'est-ce pas? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. N'est-ce pas une bonne chose, le sel qui donne du goût, qui préserve, qui annonce. Et la lumière qui annonce, qui proclame la vérité en ce qui concerne Dieu, le jugement, le péché, le salut. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Et même si ça nous coûte, pour nous, de subir cette même oppression, cette même opposition, nous pouvons nous réjouir, car cela signifie, malgré nos propres faiblesses et nos propres fautes, que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Ce n'est pas une indication que nous sommes à côté de la plaque, que Dieu est contre nous. Au contraire, c'est un signe que nous appartenons au Seigneur. On lit ça dans Philippiens. Je vais lire rapidement le chapitre 1. Conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Pour eux, c'est un indice de perdition, mais pour vous, c'est un indice de salut de la part de Dieu. En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi, et dont maintenant vous entendez encore parler en ce qui me concerne. Donc Dieu continue de faire grâce. Dieu reste le Dieu qui fait grâce. Il fait grâce à son peuple. Mais Dieu utilise aussi son peuple pour être une bénédiction dans le monde. Dans le monde, bien que ce peuple-là soit rejeté, bien que l'action de Dieu dans le monde, finalement, soit rejetée. Et tout ça sont des manifestations du caractère de Dieu, la permanence de son amour, sa loyauté à ses engagements, et sa sagesse, qui dépasse notre sagesse, souvent trop occupée par les apparences. Les apparences, il y en a encore question. Je vais terminer cette partie-ci en lisant encore au chapitre 18, 1 Samuel 18, c'est au verset 6. David a remporté la victoire sur Goliath, le peuple s'engouffre derrière lui pour repousser les Philistins un peu plus loin. Et puis Saül utilise David, le met en première ligne, et parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, David remporte tout un tas d'autres victoires. Et voilà, verset 6 du chapitre 18. Au moment où les gens revenaient de campagne, lors du retour de David, après qu'il eut abattu le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül, au son des tambourins, des cris de joie et des triomphes. Les femmes qui jouaient de la musique se répondaient les unes aux autres. Saül a battu des milliers et David des dizaines de milliers. Saül fut très fâché, cela lui déplut. Il dit, on donne des dizaines de milliers à David et à moi, on me donne des milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Et à partir de ce jour, Saül regarda David avec malveillance. Le lendemain, un mauvais souffle de Dieu s'empara de Saül qui se mit à faire le prophète au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül brandit la lance en disant « Je vais clouer David au mur. » Mais David l'évita par deux fois. Saül eut peur de David parce que le Seigneur était avec David et qu'il s'était éloigné de Saül. Saül éloigna David et le fit chef de 1000 hommes. David partait en campagne et en revenait devant la troupe. David réussissait dans toutes ses entreprises et le Seigneur était avec lui. Voyant qu'il réussissait toujours, Saül était effrayé par lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce que c'était lui qui partait en campagne et revenait devant lui. Pas nous étonner que pour Jésus, la même réaction à Dieu. Certains le repoussent, sont effrayés par lui, ne veulent pas qu'il reste. Mais d'autres l'aiment, s'attachent à lui et le suivent. Il ne faut pas nous étonner quand nous allons annoncer la bonne nouvelle qu'il y a un roi choisi par Dieu, Jésus-Christ, qui sauve et qui délivre, que ça passe par la croix, que c'est lui qu'il faut écouter, c'est lui qu'il faut suivre. Il ne faut pas nous étonner en tant que porte-parole d'un tel roi. Nous aurons aussi la même réaction. Certains vont être effrayés. Certains vont vouloir s'éloigner de nous. Certains vont se boucher les oreilles, ne voudront pas entendre ce message. D'autres vont aussi apprendre à aimer ce roi que nous aimons. D'autres aussi vont s'attacher avec nous à la suite du Fils de David. Je vais conclure avec trois points simples. Christ est la manifestation de la permanence de l'amour de Dieu pour nous. Nous ne méritions pas un tel roi. Nous n'en sommes pas dignes. Nous continuons de nous tourner vers d'autres rois. Nous sommes plus intéressés par les promesses de grandes choses, santé, richesse, pouvoir, sécurité, en dehors de Dieu, sans Dieu. Ça, c'est quand nous sommes livrés à nous-mêmes, voilà ce que nous faisons naturellement. Sans Dieu, nous sommes incapables de poser des bons choix. Sans Dieu, nous sommes incapables de voir avec les regards de Dieu. Sans Dieu, nous sommes incapables de choisir Jésus-Christ. Un roi qui meurt sur la croix pour nous délivrer. Sans la grâce de Dieu, nous n'aurions pas remarqué la pierre choisie et précieuse. Comme les autres, nous n'aurions fait de lui aucun cas. Mais parce que Dieu a été bon avec nous, il nous a donné son esprit, nous a permis de voir le roi selon son cœur. Notre vision a changé en même temps que nous sommes nés de nouveau. Il faut désapprendre ce qui fait les royaumes de ce monde. Et apprendre à regarder comment est le royaume selon Dieu. En faisant ça, vous en pensez, nous serons une bénédiction pour le monde autour de nous. En vivant selon notre nouvelle identité en Christ, nous pourrons être des agents de la grâce de Dieu dans un monde en souffrance. Même s'il nous déteste, nous allons faire du bien. Et ça, peu importe, c'est ça qui compte pour Yahweh, le Dieu plein de grâce qui nous a appelés à lui. Et nous aurons aussi la joie de voir d'autres comprendre alors quel est le royaume de Dieu, voir quel est le royaume de Dieu, entendre la promesse du royaume de Dieu et aimer Jésus au ciel. Puis Christ est celui qui nous a délivrés de nos ennemis. C'est lui seul qui a remporté le combat pour tout le peuple. Il a été passionné par le renom, la réputation, l'honneur de Dieu. C'est pour Dieu qu'il a agi, autant que pour nous sauver. Si nous pouvons envisager quelques victoires que ce soit aujourd'hui dans notre vie chrétienne, c'est uniquement à cause et par Jésus-Christ. C'est seulement dans ses pas et selon la victoire qu'il a acquise que nous pouvons espérer vaincre contre l'arrogance de nos pensées, de nos désirs qui s'élèvent contre Dieu. Si nous pouvons envisager quelques victoires sur ce qui nous opprime et veut nous rendre esclaves, peut-être une relation toxique avec quelqu'un qui nous enferme, qui nous emprisonne, peut-être un passé compliqué qui n'arrête pas de refaire surface dans les pires moments, là on voudrait être enfin tranquille, là on voudrait enfin du repos, peut-être des désirs physiques désordonnés, de sexualité ou alimentaire, ou je ne sais pas quoi, qui nous empêche, qui nous attriste. Jésus est celui qui a lié l'homme fort pour plier sa maison. Jésus est celui qui a vaincu celui vers qui Goliath est en train de diriger notre attention, vers le malin, vers le diable. Jésus est celui qui est capable de renverser la situation. Jésus est celui qui a cloué à la croix l'acte d'accusation qui nous condamnait, remportant ainsi une victoire décisive sur les mots, la victoire, et le forçant à l'humiliation totale par son triomphe. Maintenant, si tu es en lutte, regarde à Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas qu'à regarder dans le passé. La promesse de Jésus, c'est quand je m'en serai allé auprès du Père, je ne resterai pas tout seul. Je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Nous allons voir une chose avancer dans notre vie, tout autant que l'opposition. Mais au final, nous verrons surtout la victoire de Jésus se manifester. Je t'invite à prier.